Et rebonjour à tous et à toutes, vous écoutez Fréquence Mistral, il est 9h15 et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jean, Sarah, Méa, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et très heureux de me retrouver pour l'été en Briançonnais.
Bonjour Susanna.
Bonjour, bonjour Jean, bienvenue bonjour. Pour cette nouvelle saison avec nous.
Merci.
Aujourd'hui on va parler des communes et du Lautaret.
Oui, petit à petit, on va donner un éclairage simple, un peu de géographie, d'histoire et une touche de poésie sur chaque commune du nord du 05. Voilà, alors imaginons qu'on arrive de Grenoble, ce qui est souvent le cas. On est tout étonné d'entrer dans les Hautes-Alpes, dans cette longue combe droite qui s'appelle la combe de Maraval, qui est dans le granit. Avec des pentes vigoureuses, des pentes austères, de belles cascades de ci, de là. Et on sent une petite ambiance du midi. Les herbes sont vite un peu plus sèches. Il y aura vite quelques touffes de lavandin. Et on arrive donc à La Grave, qui est le premier village des Hautes-Alpes, en venant par ce grand axe, qui est l'axe Lyon-Grenoble-Briançon, Turin ou Marseille. Ensuite.
Et la formation des montagnes, ça existe depuis...
Alors, là, c'est, disons, un contact géologique. Toute la partie ouest et sud de ce grand terroir, La Grave, c'est 122 km². C'est vraiment une commune importante en termes de dimension. Alors, toute la partie ouest et sud, c'est le granit ou les schistes cristallins des Écrins. Donc, dans l'ensemble, un granit qui a ressurgi, semble-t-il, c'est ce que les géologues appellent le socle. Ça a ressurgi il y a, disons, 40-50 millions d'années lors de la surrection des Alpes. Et maintenant, ça forme ces très hauts sommets, la Mège presque 4000 mètres, ces très hauts sommets de massifs centraux, comme disent les morphologues, massifs cristallins. Après, la route, elle suit une ancienne auge glaciaire, c'est-à-dire un ancien tracé d'un des grands glaciers qui maintenant n'existe plus, bien sûr, et qui est drainé par la Romanche. C'est la haute vallée de la Romanche qui conflue avec l'Isère près de Grenoble. Autrement, lorsqu'on arrive vers La Grave, alors là, on a un peu de roche sédimentaire. On a un peu de grès, un peu de calcaire, du début de l'ère secondaire, Trias, Lias pour les connaisseurs, c'est-à-dire 220 millions d'années. Voilà. Par contre, il est toujours difficile de dater le granit parce que ça peut être très ancien et réutilisé lors de la tectonique des plaques.
Et ensuite, Jean ?
Alors, cette commune de La Grave, c'est un village, puisqu'il y a à peu près 500 habitants en ce moment. Mais en 1800, donc sous Napoléon, pas encore Napoléon Ier, mais enfin bon, c'était 1800 habitants. C'était ces grosses communautés de montagne qui vivaient de l'élevage, bien sûr, pas encore de tourisme. Très peu du passage, parce qu'il n'y avait pas encore la route Col du Lautaret, Bourdoisan-Grenoble, elle n'était pas encore construite. Elle va être construite vers 1830-1840. C'était une grande aventure. Et ces communautés vivaient l'hiver en modèle réduit, si je peux employer cette expression, parce qu'il y avait le colportage. C'est-à-dire que toute une partie de la population masculine, disons entre 15 et 40 ou 50 ans, partait faire du colportage un peu partout en France, mais enfin surtout en région lyonnaise et dans l'est du pays. Et donc ça soulageait ces populations pendant l'hiver. Mais quand on faisait le recensement, puisqu'il y a un recensement en 1800, il y avait la population au complet, parce qu'on faisait le recensement à la fin du printemps. Donc, pendant tout le 19e, ça se maintient. 1100, 1500 habitants, parce que c'est l'économie ancienne, où il faut beaucoup de bras pour l'agriculture. Et puis, donc, l'hiver, une partie de la population s'en va. Et par contre, 1954, 500 habitants. 1982, il n'y a plus que 450 habitants. C'est-à-dire qu'on est passé à une autre économie, une économie liée au tourisme, liée au passage, liée à l'alpinisme, encore un petit peu d'agriculture. Mais, et puis bien sûr, la Première Guerre mondiale a terriblement dépeuplé toutes ces communes. Hein, une partie des jeunes hommes n'est pas rentrée, et à partir de là, il y avait beaucoup moins et de mariages et d'enfants. Mais c'est surtout le changement économique qui a fait s'effondrer les équilibres plus anciens. Autrement, sur ce vaste terroir, on est tout content lorsqu'on se promène, un petit peu en voiture et surtout en randonnée, de rencontrer des hameaux. Des hameaux qui sont en versant sud, c'est-à-dire à l'Adret, donc Fréaux, Chazelet, les Terrasses, les Hières, Vintelon, avec une vue absolument magnifique sur la Mège et le massif des Écrins, avec encore cette économie agricole très herbagère, quelques troupeaux, et puis ces jolies maisons d'altitude, faut-il dire chalets. Et bien sûr, les jolies petites chapelles, c'est du style roman, hein, comme à la Grave même. Hein. C'est du style roman, ces petites chapelles de montagne, dans une économie très herbagère. Il n'y a pas énormément de forêts, quelques pentes de mélèze, mais c'est sur les versants de la Romanche, puisqu'on est sur le versant ouest, côté Isère. Et alors, il reste de l'économie traditionnelle, les foires de septembre-octobre. Ça remonte à des siècles et des siècles. Il fallait se libérer pour l'hiver d'une partie des troupeaux qui étaient vendus à ce moment-là. Donc, on achetait en échange les ustensiles, les outils dont on avait besoin pour l'hiver, parce qu'on ne pouvait nourrir l'hiver que que le nombre de bêtes qui était compatible avec les foins qui avaient été faits et engrangés pendant l'été. Donc, une grande partie du troupeau qui était né au printemps et pendant l'été, il n'était pas question de le garder. Donc, c'est à cela que servaient les foires de la fin d'été ou du début de l'automne. Autrement, de nos jours, c'est une économie d'accueil. Surtout au village de la Grave, d'ailleurs. Lorsqu'on y passe, il y a le parking, il y a ce fantastique téléphérique des glaciers qui monte à plus de 3000 mètres. Faut dire aux personnes qui ne l'ont pas encore découvert d'essayer, bien se couvrir, parce qu'à 3200 mètres, juste au bord des glaciers, c'est quand même très froid. Bien mettre des lunettes qui protègent rayons ultraviolets, se couvrir en termes de protection aussi, parce que là, alors, non seulement on bronze, mais ce sont de terribles coups de soleil en quelques minutes, s'il fait beau, et s'il fait mauvais, il vaut mieux remettre cette petite aventure. Mais c'est évidemment absolument splendide. Autrement, ce sont des colonies de vacances, ce sont des gîtes, c'est une économie d'accueil, hiver, été, peut-être plus été, avec évidemment énormément de possibilités de randonnée, sinon d'escalade, pas seulement de varapes, d'alpinisme, avec des refuges. Trois glaciers importants, la Girose, le Râteau et le Tabuchet, sur la commune tout au moins, et puis dès qu'on est au sud de la rivière de la Romanche, c'est le parc national des Écrins. Et là, il faut respecter tous les panneaux, toutes les prescriptions. Pas d'animaux, on ne prélève rien, on ne cueille rien, on ne laisse aucun déchet, on ne fait pas de feu. C'est une protection maximum d'un espace tout à fait exceptionnel.
Et le téléphérique, ça existe depuis quand ?
Alors, je n'ai pas regardé. Oui, c'est déjà assez ancien. De toute façon, c'est après la Seconde Guerre mondiale, hein, comme la plupart des téléphériques. Mais lorsqu'on regarde les cartes postales anciennes, il y en a beaucoup qui restent encore, soit à la vente, soit en exposition. Ce village de la Grave a été très, très, très photographié. À la fois le village lui-même, mais évidemment le panorama qu'il y a autour, les anciennes compagnies d'autocars qui montaient de Grenoble ou de Bourg-d'Oisans, qui allaient jusqu'au Lautaret en général, et qui amenait des touristes qui découvraient cette haute montagne tout à fait splendide. Donc les cascades, les lacs d'altitude, d'anciennes mines également en zone granitique, il y avait anciennes mines de plomb. Et puis un parcours pittoresque de la route, des tunnels. Et évidemment, un paysage nouveau qui s'offre à chaque virage, à chaque sortie de tunnel. C'est absolument splendide.
Moi, je vous propose de faire une pause musicale. J'ai trouvé Jean Ferrat à la commune.
Bon.
Ça vous dit quelque chose ?
Oui, bien sûr. Ça parle à un historien maintenant. C'est peut-être pas très local, mais néanmoins, Jean Ferrat a tellement aimé les milieux montagnards que c'est bien de lui rendre hommage.
Allez, c'est parti.
Il y a 100 ans, commun, commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'étaient des ferriers aux enseignes fragiles, c'étaient des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'étaient des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, commun, commune, comme artisan et ouvrier, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme ouvrier et artisan, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'étaient des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'étaient des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, commun, commune, comme l'espoir mis au charnier, il voyait mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter Clément.
C'était Jean Ferrat, La Commune. Et nous sommes toujours en compagnie de Jean Saraméa.
Oui, alors sur chaque...
On va parler de Villard d'Arène maintenant.
Oui, mais juste avant, sur chaque commune, en hommage au Briançonnais, je compose un petit poème.
Ah oui.
Un petit poème descriptif en acrostiche. Alors, j'explique. L'acrostiche, les lettres de la première lettre de chaque vers composent le nom de ce que l'on décrit. Donc là
de la grave.
L-A-G-R-A-V-E. Hein, donc, s'il y a beaucoup de lettres dans la commune, il y a beaucoup de vers dans le poème. Sinon, c'est un peu plus réduit. Voilà, Villard d'Arène, il y en aura davantage. Donc, la grave. L'oisan brille au midi, froid de glace et de neige. Altier, noir, triomphant, voit le pic de la Meije. Grondant en flots d'écume, écoute la Romanche, ruisselant dans la gorge où les mélèzes penchent. Au balcon de la Drée, sent l'alpage embaumé, verdoyant sous l'azur, au velours animé, et songe aux rues d'hiver, lustrant sa nappe blanche.
Oh, c'est magnifique, hein?
Joli. On essaye de faire des alexandrins tout en gardant quelques images et en suggérant un petit peu par le rythme ou le vocabulaire, la beauté de la commune.
Bon, on va faire Villa de Rennes.
Oui, donc c'est la dernière commune avant le Lautaret, 77 km carrés, c'est encore grand. Et cela va de 1500 mètres, l'altitude la plus faible, à 3900 mètres. Alors, c'était ce que l'on appelle en géographie, et c'est toujours, une commune pied de col. Et d'ailleurs, un des hameaux s'appelle pied de col. Ce qui est fantastique pour un géographe qui commente la carte. C'est-à-dire que lorsqu'un col, surtout en hiver, est difficile à franchir, il y a toujours des deux côtés de cet obstacle pour la circulation et pour la vie humaine, il y a toujours une communauté humaine qui est là pour aider les voyageurs. Donc, avant qu'il y ait une route, avant qu'il y ait du goudron et des voitures, il fallait fournir des chevaux ou des mulets, il fallait avoir des auberges pour les temps de tourmente. Les gens s'arrêtaient et passaient la nuit obligatoirement et attendaient pour moins risquer leur vie. Il fallait donc de la nourriture, il fallait des chambres et il fallait beaucoup d'artisans pour réparer les voitures entre guillemets qui avaient été endommagées. Donc c'était cette économie spécifique. Bon, quand on pense au col de Montgenèvre, d'accord, il y a le village de Montgenèvre, mais Briançon, c'est la ville de pied de col, et de l'autre côté, c'est Cézanne. Donc partout dans les montagnes, Pyrénées, Alpes, etc., il y a ce système de villages ou villes de pied de col qui, pendant des siècles, voire des millénaires, ont fourni des services au franchissement d'un obstacle. Alors, au niveau de la population, c'est quasiment comme la Grave, mais beaucoup moins peuplée. En 1800, il y avait 530 habitants. La Grave, 1800. En 1900, 420. Donc, comme à la Grave, ça s'était maintenu. Les activités, le fauchage des prés, l'élevage, l'artisanat, etc. 1954, donc un demi-siècle après, 180.
On après est, la guerre encore
alors, après, ouais. les deux guerres.
Ouais, après les deux guerres.
Mais, et puis, encore une fois, l'économie agricole est bouleversée et on est à deux doigts de la disparition d'une commune de montagne. Et de nos jours, on n'a pas retrouvé le niveau de 1900. C'est autour de 300 habitants permanents, bien sûr, si on faisait le recensement au mois d'août, avec l'économie d'accueil et les villégiatures, les villages de vacances, les colonies, les gîtes, etc. Ce serait évidemment multiplié par trois ou davantage. Donc c'est la même évolution au niveau économique. Alors c'est si vrai que au niveau de l'enseignement primaire, qui est de la responsabilité certes de l'État, mais qui est géré par les mairies, par les communes, ça se partage. Il y a une partie des classes, les plus petites je crois, qui sont à la Grave, et une autre partie à Villard d'Arène, avec évidemment, surtout l'hiver, tout le problème du ramassage à partir des hameaux. Là, il y a les cours, il y a le col du Lautaret, les immeubles habités, le bâti permanent et habité se trouve sur la commune de Villard d'Arène, et puis pied de col. Voilà, autrement, comme pour la Grave, toute la partie sud, c'est le parc des Écrins, avec ce paysage splendide, avec les grands sommets de plus de 3000 mètres, avec les glaciers, les lacs, avec les sentiers de grande randonnée, je pense au GR54, qui remonte la haute vallée de la Romanche jusqu'au col d'Arcine et qui fait le tour du massif de Combénaud. L'alpinisme, bien sûr, trois refuges, dont un à 3100 mètres d'altitude. On est dans l'économie touristique de vraiment très haute montagne.
Vous avez fait
Non, je ne suis pas téméraire, étant donné mon âge, mais ça fait rêver et on admire, évidemment. Alors, sur le plan géologique, toute la partie sud et la partie est est dans le granit. C'est le massif des Écrins et le massif de Combénaud. Le massif de Combénaud est très particulier. C'est un granit assez récent, d'après les géologues, sur le plan géologique, hein, bien sûr. Autrement, le long de la Romanche et tout le nord de la commune, ce sont des sédiments essentiellement calcaires. Ce sont des sédiments de l'ère secondaire, c'est-à-dire entre 120 et 200 millions d'années, avec ce que l'on appelle vers l'extrême nord de la commune le flysch des aiguilles d'Arve. Les aiguilles d'Arve sont côté Savoie. Alors le flysch, c'est un terme morphologique, minéralogique, géologique. Ce sont des schistes en général, mais ça peut être aussi du calcaire, du grès, voire des roches beaucoup plus tendres. Une particularité très jolie à observer et très bien expliquée, c'est dans l'enceinte du jardin alpin du Lautaret, la tuffière. La tuffière, c'est-à-dire une source très chargée en calcaire, qui dépose beaucoup de calcaire à la sortie de la montagne, et ce calcaire enrobe des brindilles, des feuilles. En plus, il est très coloré, d'une couleur brune assez affirmée. Et c'est très joli et vraiment bien expliqué.
Après,
oui, en quelque sorte. Et c'est une roche vraiment spécifique, qui peut être assez dure. Et d'ailleurs, certaines parois de chapelles sont quelquefois construites en tuf, T-U-F.
Jean, c'est pour ça que mon lot est souvent, le calcaire est souvent en couleur un peu orange.
Alors, quand on se promène en montagne, on voit des sources ou des portions de petits ruisseaux ou de petits torrents qui ont une couleur orange. Ça, c'est plutôt l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, hein, lorsque, en provenance des profondeurs, il y a des
comme
filons
de
avec... oui, il y a donc du fer, et le fer se combine avec l'oxygène, ça donne Fe2O3, et c'est la rouille, tout simplement, d'où la couleur rouille qui enrobe les pierres. Et ça peut enrober également le calcaire de la tuffière, mais l'origine, là, c'est le fer ferrique au niveau chimique. Autrement, la spécificité, mais très peu de touristes peuvent en bénéficier parce que traditionnellement, ça se fait au mois de novembre. C'est le pot-bouli dans le dialecte local, c'est-à-dire un pain spécifique fabriqué dans le four traditionnel, dans une recette que je ne dévoilerai pas. Vous allez soit à l'office du tourisme, soit sur place, vous renseigner sur ce pot bouilli qu'on ne doit pas traduire par du pain bouilli, ce qui serait tout à fait erroné. Voilà. Et quelque chose aussi qu'on ne connaît pas bien, les habitants de la Grave, c'est les Gravereaux. Mais les habitants de Villard-d'Arène sont les Farenchins. Les Farenchins.
Ah, pourquoi voilà,
Chaque communauté ça peut venir d'un nom très ancien, ça peut venir d'un nom dialectal, ça peut venir d'un surnom donné à des habitants. Et à ma grande honte, je n'ai pas posé la question. Le petit poème sur Villard-d'Arène, alors là c'est un peu plus long, hein, V-I-L-A-R-D-A-R-E-N-E. Voici le fier torrent, bondissant, écumant, irisant les prairies en gouttes de diamants, luisant sous le roc noir, scintille en fleurs de neige, le cristal des glaciers du massif de la Meije. Au fond de la vallée de la haute Romanche, rêve un dernier village, égrenant ses dimanches. Dans un cadre grandiose, à l'aplomb des falaises, à l'ubac ombragé, le manteau des mélèzes rougit en feu d'automne en face des alpages. En vue du Lautaret, doux jardin de nuages, niché dans le vieux four, tradition médiévale, est né le pain bouilli en saveur hivernale.
Je vous propose, elle descend de la montagne à cheval.
Ah,
c'est
très bonne idée.
Du frais.
Peut-être des mulets dans l'ancienne économie, mais
voilà.
C'est tout à fait adapté.
C'est parti.
Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne à cheval.
Et c'était Hugo Friel, des sons de la montagne à cheval.
Quel bon souvenir de cette chanson dynamique, agréable, souvenir de feu de camp, souvenir de chanson en commun, parce qu'elle est facile à retenir. Le soir, l'été, en compagnie de personnes sympathiques, c'est vraiment ça. Hein.
Bon, on va continuer avec le col de Lauterem.
Voilà, ben, nous venons toujours de l'ouest et nous arrivons par une route magnifique et des courbes très amples au col du Lauterem. Alors vraiment, si vous avez un peu de temps, arrêtez-vous, ne passez pas, sauf si vous êtes pressé, bien sûr, ou attendu. Mais arrêtez-vous parce que c'est un paysage exceptionnel. Alors, le col est partagé entre deux communes. La partie est est sur le Montier et toute la partie ouest, disons les trois quarts de ce qui est bâti et habité, est sur Villard d'Arène. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des enfants, et il y en a, eh bien, ils vont à l'école à Villard d'Arène et non pas à Montier. Après, évidemment, en sixième, ils viennent au collège à Briançon. Donc, il y a un système de ramassage scolaire. Le responsable au col m'a dit que depuis 1954, le col est systématiquement maintenu ouvert pendant l'été, parce que c'est un grand axe. Il faut vraiment une chute de neige exceptionnelle, voire une avalanche plus grave que les autres, en dehors du paravalanche, pour que le col soit fermé, disons, 24 heures, et c'est évidemment très gênant au niveau des transports entre l'Isère et Briançon, ou même pour les villages. Si vous avez le temps, allez par la petite route qui monte à 2100 mètres, allez au jardin alpin du Lautaret, parce que vous avez de mi-juin jusqu'à début septembre, d'abord, quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire des centaines de plantes qui sont gérées, semées, replantées chaque année, parce que ça disparaît pendant l'hiver, évidemment, par des scientifiques de haut niveau qui font des études botaniques, adaptation climatique, etc. C'est géré par l'Université de Grenoble. C'est à gestion universitaire, avec laboratoire sur place, serre, pépinière. Mais c'est très bien expliqué. Les petits sentiers sont adorables, avec petits ruisseaux également. Et vous pouvez, de temps en temps, ou bien vous vous promenez tout seul et vous regardez les étiquettes, ou bien vous attendez les visites guidées. C'est très bon marché. Vous avez les cartes postales, vous pouvez acheter des graines. Et vous avez aussi des grands panneaux géologiques qui vous expliquent le paysage de Combénaud ou de Lamège au sud. Ce paysage est somptueux, mais aussi le paysage vers le nord, c'est-à-dire vers ce qu'on appelle les nappes de charriage du col du Galibier. On en reparlera sur d'autres communes. Et c'est expliqué en couleur et c'est absolument remarquable. C'est même assez rare de trouver ça d'une telle qualité en montagne. Vous pouvez vous garer facilement et vous pouvez aussi vous arrêter à la sympathique miellerie. Imaginez qu'un couple avec des enfants dans un très joli bâtiment vit à l'année à 2100 mètres. Il faut une petite motoneige une grande partie de l'année pour descendre au col et en remonter, bien sûr. Et là, ils vous proposent leur miel, bien sûr, mais aussi leur confiture, leur fabrication, leurs biscuits. C'est très sympathique. Après, au col même, vous avez un hôtel de luxe, vous avez un commerce très sympathique avec les liqueurs, les cartes postales, les peluches, tous les souvenirs liés au col du Lautaret. Vous avez même plusieurs commerces de ce type. Vous avez bien sûr un bar-restaurant. Autrement, les grands bâtiments sont des bâtiments d'entretien. Il faut tout le matériel et le personnel pour maintenir la route ouverte, si possible, toute l'année. Et puis alors, l'été, il y a la maison du parc. Une des maisons du parc des Écrins, dans le refuge Napoléon. dans le refuge Napoléon, qui a été très bien aménagé avec conférences gratuites, avec des vidéos tous les jours sur la flore, la faune, avec une exposition, vente de livres, de documents. Et vraiment, il y a toute une série de centres d'intérêt en prenant le temps de s'arrêter. Alors, par une petite piste, il y a aussi une aire pour les camping-cars l'été. Voilà, c'est en allant vers les sources de la Guisane. Au niveau commune, c'est sur le Montier. Alors, un petit poème, toujours en acrostiche, Col du Lautaret. Courant parmi l'alpage, au ton multicolore, où la brise aigrelette ébouriffe la flore, le voyageur comblé découvre les joyaux de ce col fréquenté des temps immémoriaux. Un manteau de glacier au massif de la Meije, lui près des noirs sommets que saupoudre la neige. Au nord, sévère écrin de l'ardu galibier, un chaînon tourmenté de roc au port altier. Timide ruisselet babillant sous les aulnes, au pied des pics sont nés les romanches et guisanes, rassemblant les bijoux des Alpes et du monde, émerveillent nos yeux au jardin botanique, tes multiples splendeurs rayonnent à la ronde.
Ça donne envie d'y aller, hein.
Tout à fait, il ne faut pas s'en priver. En plus, vraiment, c'est un des cols les plus faciles qui soient, à moins d'être derrière un camion ou un camping-car qui regarde le paysage. On monte en quatrième presque tout le long. Hein. Il faut même se méfier dans les virages des motos qui descendent facilement à 90.
Hein.
Bientôt 80.
Et c'est quelle altitude, hein?
2050. 2050. Ce n'est pas le col le plus bas des Alpes, puisque Montgenèvre est à 1800, mais c'est un col relativement bas. Puis alors, la route est vraiment magnifique, bien entretenue, c'est grand axe. Et puis, bien sûr, le carrefour vers le Galibier. Mais là aussi, c'est sur Montier.
Un grand merci, Jean.
Eh bien, merci aux auditrices et aux auditeurs.
Et puis, à très bientôt pour de nouvelles communes.
Avec grand plaisir. Ben, on descendra la Guisane la prochaine
fois.
Voilà,
exactement. Hein? Avec plaisir.